9h, dans le bureau de par Jupiter.
Allez, une, deux.
Vous faites quoi, là?
Juju, tu commences mal le bootcamp, t'es en retard.
Allez.
Bootcamp, comme dans camp d'entraînement. On va t'accasser, elle.
Soldat seconde classe Arnaud en place. Aujourd'hui, je vous partage mon savoir-faire en gainage.
Nickel. Guillaume, c'est lui qui assure la défense de ce pays, je suis sereine.
Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Shirley Soignon. Elle a monté son propre comédie club, le Barbès, dans lequel elle a créé un campus pour former des jeunes humoristes.
Ça nous a donné une idée, monter un campus par Jupiter.
Voilà, campus où on travaille le physique et le mental, parce que la clé, c'est le mental.
Parce qu'on rigole pas avec les blagues.
Voilà.
Ok, et on apprend quoi dans ce campus?
Nuance, rigueur, neutralité.
Mauvaise foi.
L'obéissance. Troufion Arnaud, va falloir arrêter de tout discutailler comme ça.
Attends. D'ailleurs, Guillaume, attends.
C'est qui la chef ici?
C'est toi, mais pour le gainage, on a dit c'est moi quand même, non?
Enfin, le but de ce campus, c'est pas qu'on se fasse des abdos.
C'est quoi alors?
C'est que les auditeurs, ils aient la force de rire en nous écoutant.
Sinon, je peux directement faire un cours de gainage aux auditeurs pendant l'émission, comme ça c'est plus simple, non?
Oui, mais t'es pas coach sportif, Guillaume. Alors maintenant, Caporal Meurice. Vous me laissez gérer la situation?
Oui.
Garde à vous!
Non mais sérieux, vous trouvez pas que vous y allez un peu fort?
En avant, marche!
Mais non mais c'est quoi ce délire militaire sérieux? Non,
c'est... C'est vous, seconde classe Arnaud, vous allez finir au new!
Gauche!
Non mais sur France Inter quand même!
Exercice de devinette?
Non, pas ça, pas les devinettes!
Pourquoi les chats aiment boire du lait?
Parce
qu'ils ont des carences en calcium?
Parce qu'avec l'eau minérale... Vous l'avez ou pas, minéral? Vous allez tous les deux échouer à l'épreuve, car vous êtes nuls. Pour la peine, vous allez exécuter 5 minutes de gainage.
Ah yes! Ah ouais.
Vivement que je suis en vacances, que je fasse plutôt du yoga. Du yoga du rire.
France Inter, bienvenue à la sous-préfecture de la Poilade, dont voici la devise « Tant va la cruche à l'eau que Darmanin nous les brise ».
Oh, c'est beau.
Voici le sommaire.
Les samedis à Saint-Denis se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce samedi, celui qui arrive, moins de lacrymo et moins de foot, mais une marche queer des quartiers populaires. Histoire de réaliser que le vécu parisien n'est pas celui des banlieusards, par exemple. Histoire aussi de donner de bonnes émotions à Éric Zemmour.
C'est pas possible. Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai.
Le rire fait vivre les salles de spectacle. Pour les théâtres, programmer de l'humour, c'est la garantie de remplir la salle, d'attirer un autre public, plus jeune, plus diversifié, et espérer qu'ils reviennent voir autre chose. Le rire, c'est cash.
Vous êtes chiant. Vous tournez tout en dérision. Vraiment, vous contribuez... à l'abrutissement de la masse populaire.
Oui, c'est nous, ça.
Et avec vos impôts, en plus. En Angleterre, une jeune fille sur trois a déjà été harcelée alors qu'elle portait son uniforme scolaire. Un uniforme qui est vendu dans les sex shops, ce qui participe à la sexualisation des lycéennes en tenue obligatoire.
Miss Mafarel, vous dissipez tous mes élèves avec vos tenues excentriques. Vous avez rendu mon fils idiot. Regardez-le, un idiot.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, et aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, une équipe de bons hommes, mais vulnérables. Avec d'abord le rebelle de Radio France, puisqu'il en défie tous les jours le règlement, il a fait rentrer un animal dans les locaux d'Inter, c'est un chat invisible, il s'appelle Capucin. Est-ce que Capucin écoute du punk rock afghan? On ne sait pas. C'est un chat beaucoup plus secret que son propriétaire. Bonjour Djoubaka.
Bonjour tout le monde.
De quoi?
On va écouter aujourd'hui?
Oui.
Ouais, d'un gars qui s'appelle Gus. Engelhorn. Je l'ai bien dit.
Bon, on l'appelle Gus.
Ouais, c'est Gus.
Un gars qui s'appelle Gus.
Ouais, c'est Gus.
Je crois que je vais avoir des soucis.
Ensuite, si le Che Guevara disait « Non seulement je ne suis pas modéré, mais j'essaierai de ne jamais l'être », lui, modéré, il ne sait même pas les plaies. Voici le guerriero des coquillettes, Guillaume Maurice.
Ah oui, j'aime bien. Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Je vais vous parler du jubilé de la reine d'Angleterre aujourd'hui. Bah oui, j'ai interrogé Alex Taylor, qui est journaliste franco-britannique, sur l'impact économique de cet événement planétaire.
Tout le monde va arrêter de travailler, perte de productivité, ce sera la récession.
Calmons-nous, peut-être. Calmons-nous, commençons par nous.
Et enfin, lui, c'est la branche dissidente des forces du Nord, c'est l'équivalent de l'IRA avec une violence purement cholestérolique. Mais s'il demande une seconde fois « vous allez bien », c'est qu'en fait, il n'est qu'empathie et compassion. Bonjour Aymeric Lantraine.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler?
Je vais vous parler du jubilé de la reine aussi.
Je n'y crois pas une seconde.
Et voici celle qui nous accompagne jusqu'à 18h. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Shirley Soignon.
Ouais, super.
Oh là là.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue sur Les Soignons.
J'étais pas prête pour le lancement là. Ouais, sur Les Soignons. C'est pas ma vraie voix, hein, faut le savoir.
Vous pouvez faire toute l'émission comme ça si vous le souhaitez.
Avec plaisir. C'est très France Inter.
Alors, votre spectacle s'intitule Être humain. Il y a une date au théâtre de l'Atelier à Paris le samedi 12 juin à 19h.
Yes.
Pourquoi est-ce que j'ai qu'une seule date sous les yeux, moi ? Qu'est-ce que...
Ouais, une date unique, un retour à Paris et dans une grande salle avec un nouveau spectacle, un peu totalement nouveau pour moi, en fait, dans la forme, dans le fond, dans ce que j'y apporte. Et donc, je suis assez fière de ce spectacle, mais j'ai envie de prendre le temps de le faire et de pas forcément être au bureau en faisant pendant 3 mois dans le même théâtre. Voilà, j'ai envie de proposer quelque chose et puis après cette date-là, j'en annoncerai d'autres.
Très bien.
Ouais,
ok.
Ouais.
Un spectacle.
Mais déjà, faut la remplir celle-là, quoi. C'est ça que je veux dire.
Dont on a pu voir une partie, nous, en captation. Vous étiez en première partie de Caroline Vigneault.
Ouais.
C'est peut-être déjà pas le même public. Est-ce que, par exemple, quand vous faites une première partie devant le public de Caroline Vigneault, les propos que vous avez, le côté intime, un peu qui peut être un peu cru, etc. Est-ce que c'est marrant de le faire devant le public qui est venu voir quelqu'un d'autre, justement?
Ouais, c'est trop cool. Évidemment, moi, j'ai toujours un peu cette mission quand je suis en première partie de me dire faut que je chauffe la salle et que je fasse un truc cool. Donc il y a une petite pression différente de quand on joue pour son public entre guillemets.
Ouais.
Mais il y a un truc d'ailleurs, une anecdote assez rigolote sur cette soirée où Caroline m'a dit surtout leur parle pas, fais pas les trucs de stand-up où vous parlez avec les gens là parce qu'ils vont pas te répondre. C'est moi aussi des CSP+, ils vont pas te répondre. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout des êtres humains. Et en fait, j'ai parlé avec eux pendant le spectacle. J'ai dit Caroline, elle m'a dit de pas vous parler. Et j'ai parlé avec eux et on a même parlé de weed. C'était génial.
Ouais,
c'était vraiment des
CSP+. Vous avez dû sans doute peut-être les bousculer un petit peu. Moi, je me posais cette question. Vous avez participé notamment à On ne demande qu'à en rire, par exemple. On voit que être humain, un peu. Il y a des thèmes un peu crus. Enfin, ça parle des règles et tout ça. Pour nous, c'est pas cru, mais pour la majorité des gens, ça peut le sembler. Hein. Et des thèmes de l'intimité. Je me suis demandé qu'est-ce qui a un peu décomplexé le genre, parce que c'est relativement neuf, ça a quelques années. Est-ce que c'est propre au stand-up? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça y est, on peut en parler de manière décomplexée, de sexualité, de règles, d'aller bousculer un peu les gens?
Ouais. Alors ce spectacle ne parle pas justement, le sujet sur les règles, c'est un sketch que j'avais par ailleurs.
D'accord.
Et puis du coup, dans la première partie de Caroline, j'ai fait des blagues sur, et surtout pas nouvelles, pour garder un peu de frais.
Mais il reste un côté cash.
Je parle beaucoup du genre. Ouais. Je parle beaucoup du genre. Je déconstruis beaucoup sur le genre depuis le début de ma carrière, en vérité. Et puis, en vérité, ça fait un moment que j'ai de m'exprimer dessus, mais qu'on m'écoute pas trop, parce que forcément, à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, le monde était totalement différent. Aujourd'hui, être non-binaire, c'est un mot que je connaissais pas non plus et que j'ai découvert avec la société qui a évolué. Donc, j'ai pu aussi m'exprimer parce qu'il y a des mots qui sont arrivés qui m'ont permis de le faire. Donc, moi, je suis non-binaire. Et donc, on m'a souvent pris pour un gars, mais parce que je comprends aujourd'hui que c'est aussi le cas. Vous voyez ? Donc, je suis toujours en déconstruction dans mes sujets, que ça soit évidemment aussi le racisme, le féminisme, c'est des choses qui m'empruntent, en fait, des choses que je vis. On me dit, mais t'en parles beaucoup, je sais là, je le vis beaucoup, en fait, c'est ça le truc. Donc, forcément, je suis obligée d'en parler et j'avance avec les sujets. Donc, je crois pas que ça soit cru. Je crois pas. Je pense que c'est même bien cuit. Ça fait un moment que les sujets sont sur la table.
Ouais,
il est temps de bouffer, les amis.
Ouais, c'est vrai. Juliette,
Donc votre spectacle s'appelle Être humain. Dans ce que j'ai vu en première partie de Caroline Vigneault, vous l'avez carrément cherché dans le dictionnaire. C'est vrai que c'est pas commun de chercher. On cherche pas plus stable. Et vous l'avez fait. Et en fait, aucune définition ne convient. Si c'est bipède avec des mains préhensiles, ça va pas, parce qu'il y a des gens qui sont pas bipèdes.
Voilà.
Doués d'empathie, ça marche pas non plus, parce que les animaux, on a prouvé qu'ils étaient doués d'empathie.
Totalement.
Alors finalement, c'est quoi la moins pire? Puisqu'il y a que des mauvaises définitions à être humain, c'est quoi la moins pire à vos yeux?
Alors il y a pas de moins pire, mais c'est plutôt l'idée de c'est quoi ma définition d'être humain, surtout qu'est-ce que moi j'en entends par là, parce que effectivement, si on prend la définition du Larousse, elle est pas adaptée, elle est pas inclusive, elle correspond pas à notre société. Donc être humain, c'est une action. Pour moi, on est des êtres vivants, et c'est ce que dit d'ailleurs le dictionnaire. À la base, on est des êtres vivants et on se différencie des autres être vivant par notre déplacement bipède et blablabla. Mais moi, je dis qu'on est des êtres vivants et c'est déjà pas mal, on respire, etc., on marche. Après, être humain, c'est une action qui consiste évidemment à être dans l'empathie, parce qu'on l'est pas forcément. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « c'est pas humain ». Et c'est pour les humains. Donc, pour moi, être humain, c'est faire une action. D'ailleurs, on dit en anglais « human being ». Donc, « being », c'est une action, c'est un truc en état de marche. C'est pas quelque chose qui est acquis.
Alors, justement, parce que vous dites aussi que, en gros, vous êtes... Là, vous venez de faire 15 ans de déconstruction.
La déconstruction, c'est un truc qui est vraiment pas un truc de feignasse. Ça demande d'être vigilant, ça demande même d'être vigilant quasiment tous les jours sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pense.
Prenez des notes peut-être, Aymeric.
Mais c'est du boulot, Aymeric. Hein. C'est ça qu'on a essayé de dire, c'est du boulot, c'est du travail.
Ça, je pige rien, là, putain.
Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison, la vraie raison de la résistance ? Que c'est pas justement parce que ça demande un taf de dingue.
Ouais, totalement, je commence à le comprendre. On me dit que vous êtes une femme forte, courageuse. Non, je crois que c'est effectivement c'est quelque chose de compliqué. Je commence à comprendre que ma démarche est compliquée de déconstruire. Il y a plein de moments où j'aimerais arrêter de vouloir déconstruire des choses et de comprendre d'autres choses et d'être à contre-courant, entre guillemets. C'est difficile, c'est très difficile. Mais comme de base, la vie est difficile, je me suis dit autant choisir la difficulté et parce qu'au bout de ce chemin, j'ai l'impression que vient quand même un peu de paix intérieure. Et c'est un peu ça l'idée de faire du stand-up pour moi. C'est...
Et alors donc, quand vous observez des gens en face de vous qui refusent catégoriquement de déconstruire quoi que ce soit, qui relèvent de ce qu'ils pensent, vous le mettez sur le compte d'abord de la feignantise ?
Non.
Ah !
Non.
Non ?
Non, on est des êtres vivants, découvrent le monde, on est empreint de plein de souffrances. Donc c'est, moi, j'habite là, je viens de déménager à la campagne, c'est parce que j'avais besoin de sortir un peu du bruit et tout parisien, et là, je suis trop bien. Et c'est marrant parce que justement, je rencontre des gens qui sont pas à Paris tous les jours en train de dire « Oui, moi, je pense que le racisme, etc. » Ils pensent pas à tout ça, et donc ils disent des dingueries.
Non, c'est nous, ça.
Ouais, c'est vraiment... J'ai bien reconnu. Et c'est assez intéressant parce que, voilà, j'ai des conversations avec des gens qui me disent... Alors, par exemple, un gars qui me dit « Ah bah, ta maison que tu viens d'acheter, là, c'était des pédophiles qui étaient là avant. » Je dis « Excuse-moi ?» Je dis « Tu veux dire des PD ? C'est ça que tu veux dire ?» Il me dit « Ah oui, voilà, pardon, c'est pas la... Ça n'a rien à voir, hein. Il y a un truc qui est interdit par la loi, quoi. Et, tu vois, je pourrais être outré ou machin, etc. Non, j'avais beaucoup d'amour pour ce garçon. J'étais là « Ah, faut qu'on parle, faut qu'on s'apprenne des choses, faut qu'on échange, faut qu'on ouvre le Larousse ensemble.
» Je pense que vos voisins vont devenir woke, Shirley. Ça va être vite vu.
Je connaissais même pas ce mot. J'ai appris que j'étais woke, je savais pas. Pour moi, c'était un plat, quoi.
Ouais. Shirley Soignon avec nous, être humain, au Théâtre de l'Atelier à Paris, le 12 juin à 19h, avant les autres dates à venir.
Je
Ce titre s'intitule « La drogue ». Il date de 68. Ouais, c'est Djoubaka qui nous l'a programmé. C'est Richard de Bordeaux. Génial. Et Daniel Beretta. Première chanson sur la drogue.
Bah, ouais. Diffusé à ce point-là et aussi autoritaire sur le sujet, ouais, je pense.
Juliette, il y a Shirley Soignon qui nous accompagne aujourd'hui et aussi...
Oh bah, des abstinents. En termes de drogue, bien sûr. Aymeric Lomprey, Djoubaka et même Guillaume Meurice, finalement.
Moi, ma drogue, c'est la vie.
Moi, c'est l'actualité.
Je mets au défi les économistes libéraux d'accepter un débat avec le Conseil économique de la Nouvelle Union Populaire. Nous ne supportons plus l'arrogance de ceux qui prétendent nous donner des leçons de gestion.
Le journal de presque 17h17.
Enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera...
Et vous avez vu c'est le jubilé de la reine d'Angleterre, vous avez vu ça?
Quoi?
La reine d'Angleterre, c'est l'anniversaire de reine, c'est ouf.
Mais on s'en cogne de ça.
Mais non, mais tout le monde parle que de ça, c'est l'anniversaire de la reine,
ouais,
c'est le jubilé.
Pas nous, ça va. Alors on parlera réchauffement climatique.
Mais non, mais il y a Kate Middleton, elle va venir, c'est la grosse teuf. Hein.
Mais
c'est
on s'en gros... fout, Guillaume.
Mais Fabienne Santa, elle fait téléphone sonne ce soir là-bas, c'est hyper important.
Attendez, on parlera de Darmanin.
Mais attendez, c'est pas important pour vous la monarchie?
Mais non, on s'en fout des monarchies. Les monarchies, c'est nul.
Charline, la Belgique, c'est quoi?
Allez, on enchaîne.
Bah oui, important.
Allez, on commence par...
On commence par le jubilé de la reine d'Angleterre.
Okay,
c'est le jubilé de la reine.
Ok, Guillaume, oui. Une info et après on passe à autre chose. Hein.
Yes.
Ok, allez. La France a offert un cheval de la garde républicaine à Elisabeth II pour son jubilé.
Eh oui, et en échange, l'Angleterre a offert le manuel « Gérer une foule pour les nuls » à la France.
Selon le Canard enchaîné, Emmanuel Macron était, je cite, « furieux et a recadré Gérald Darmanin ».
Oui, parce qu'on vit dans un pays où il vaut mieux être accusé de viol que de ne pas savoir gérer l'accès à un match de foot.
Qui imagine Simone de Beauvoir tirer à pénalty?
C'est pas faux. Football, toujours. Un élu communiste à la mairie de Paris a arboré un maillot du club de foot de Liverpool pour demander la démission du préfet de police Didier Lallemand.
Oui. Très beau geste que vous faites aujourd'hui, vrai. Guillaume, d'être venu avec une chemise toute chiffonnée en hommage aux supporters qui se sont fait bousculer.
C'est pas gentil ce que vous faites. C'est vraiment moche.
Oui, mais c'est assez juste.
Oui, mais c'est pas gentil. Ouais, on enchaîne avec la politique. Ouais. C'est vraiment pas gentil.
Ensemble, le parti de la majorité présidentielle a publié une campagne pour dénoncer les propositions de la NUP. Le slogan, c'est « Nous ne sommes pas dupes
». C'est génial. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Alors, il y avait aussi « Ni NUP, ni soumise ».
Ouais, pas mal.
Ouais, tout NUP et tout bronzé.
Ouais, d'accord.
Nupiter.
Ah ouais, Michel Sardou a annoncé que si Jean-Luc Mélenchon devenait Premier ministre, il quittait la France.
C'est sans doute un des meilleurs arguments de campagne en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
Ouais, Michel Sardou effectue donc la politique de la terre brûlée. Au vent.
Oh là là.
L'or de pierre.
Ah, j'adore quand vous chantez.
Ben, je sais.
Ça me fout les poils.
Je sais. Pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates français sont en grève.
Oula, ça va tout bloquer ça.
Mais quoi?
Ben s'ils sont en grève, ils vont tout bloquer, les diplomates français. Tout ce qui est, ils vont bloquer des trucs.
Ouais.
Tout ce qui est...
Ouais. Demande de passeport, quoi.
Ouais.
Allez, selon des chercheurs de l'Institut Weizmann des sciences, la Terre semble se réchauffer plus vite que prévu.
Ouais. L'année prochaine, le débat sur le burkini aura lieu donc en février.
Et puis, Francis Lalanne se plaint auprès de Twitter d'être victime de fake news.
Bon. Bah là, a priori, pas besoin de rajouter de blagues. Hein. C'est
le,
bon,
le taf est fait. Hier, l'Ukraine a éliminé l'Écosse.
J'en étais sûr. Poutine, il a raison depuis le début. Les Ukrainiens, c'est des gens, ils sont hyper violents. Ils éliminent l'Écosse. Bientôt qui? L'Italie, l'Espagne, la France, vive la Russie.
J'ose
le dire parce que personne ne le dit. Ils éliminent comme ça un pays.
Mais l'Ukraine a éliminé l'Écosse dans les qualifications de la Coupe du Monde de football.
Ah, bon, autant pour moi, d'accord. Mais, non, mais quand même. En plus, les Ukrainiens, ils fabriquent des fausses places. C'est pas bien. Non, allez.
Ouais, on enchaîne.
Ouais, non, ça va. Oui, je me suis un peu enflammé, effectivement. Je pensais qu'ils allaient vraiment éliminer le pays.
17h27 sur France Inter. Shirley Soignon est avec nous. Juliette, vous avez un premier sujet que Shirley a d'ailleurs soumis à notre équipe.
Une tribune dans Libération aujourd'hui nous rappelle que samedi 4 juin, c'est le retour après 3 ans d'absence de la Pride des banlieues. Entendre marche des fiertés, une marche festive et militante pour défendre les droits des citoyens LGBT. QIA+, résidents dans les quartiers populaires. Parce qu'il y a urgence en termes de places d'hébergement d'urgence, justement. Tout le monde est invité. Un rappel, certes, c'est une marche, pas une course. Néanmoins, il est essentiel de maîtriser les principes de base.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, non, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
C'était un extrait du film Les Randonneurs et on entendait Benoît Poulvord. Est-ce que vous étiez à la première?
Non, pas du tout. Je n'étais pas à la première. Malheureusement, j'étais en tournée. J'étais en date. Et je regrettais de ne pas être là. Et du coup, quand ils m'ont reproposé, j'étais là. Oui, là, je viens tout de suite. Évidemment, je bloque.
Et ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous soutenez cette marche des fiertés, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la précarité, elle est plus dure en banlieue pour les gens qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+.
Bon, la précarité est plus dure en banlieue, je pense qu'on ça, on l'avait compris. Bon, bah après, on rajoute des couches, hein. Après, on peut rajouter plein de trucs.
Oui, mais précisément.
Ah oui, je peux donner des exemples de pourquoi. Évidemment, quand on est dans des situations, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en tant que membres de la communauté rejetées de leur famille, qui cherchent des logements, etc. Quand ils habitent en banlieue et que, si vous voulez, en temps de confinement en plus, c'est ça qui est ajouté dans la tribune, c'est-à-dire que là, on était en confiné, donc avec des personnes qui étaient dans des situations déjà précaires avant cela, qui se sont trouvées dans des situations encore plus précaires, et donc là, la situation est d'autant plus grave que l'était avant. C'est ce qui arrive en banlieue. Comme ça peut arriver déjà de base, en fait, ce que je voulais expliquer pour la communauté LGBT. De base. Donc, en banlieue, je crois que j'ai pas rien à expliquer de plus.
Ça amplifie, les problèmes.
Oui, évidemment. Ouais. On est ghettoisé en banlieue déjà. Donc, la ghettoisation dans la ghettoisation, c'est compliqué parce que forcément, on se retrouve entouré de personnes qui ne pensent pas comme vous. Et qui ne vous prête pas forcément main forte, et donc qui vous isole et qui amène certaines personnes à perdre la vie, tout simplement, parce que isolées, trop isolées, et le confinement a fait perdre beaucoup de gens de la communauté.
Voilà, donc en fait, le but, c'est en gros de lutter contre le cumul des précarités et faire respecter le droit fondamental à un habitat décent. Cette première manifestation, en fait, elle avait été un succès. Elle avait réuni plus de 3000 personnes, et un ami militant, me dit, qui est un habitué de toutes les prides, et françaises et européennes, me disait qu'il avait été touché par cette première Pride parce qu'il l'avait trouvée à la fois joyeuse, safe, activiste et jeune.
C'est très jeune, et je suis assez étonnée d'ailleurs des gens qui portent le mouvement et qui m'ont contacté, avec qui j'ai pu échanger, qui sont vraiment hyper actifs. Enfin, je reçois des mails vraiment tous les jours. J'ai jamais vu des gens aussi actifs dans leur manière de militer, puis il y a une vraie organisation. C'est pas impulsif, hein, c'est vraiment une vraie organisation qui est derrière ça et qui est très jeune, ça qui est étonnant, quoi. C'est pas des gens qui ont 22 ans, 23 ans, et ils sont très déterminés, et ça fait plaisir de les suivre, moi la petite vieille, de suivre le mouvement et de pouvoir être avec eux à Saint-Denis, parce que ça y est, ils prennent le flambeau de cette...
Alors, on rappelle quand même qu'il y aura il y aura une Pride parisienne le 25 juin, et que cet événement, il se veut complémentaire de la Pride parisienne. Exactement. Parce que c'est vrai que le vécu parisien, il n'est pas celui des banlieusards, et que le Marais, c'est chouette, mais il y a d'autres manières d'être homosexuel en Ile-de-France.
Oui, c'est ça, c'est que les gens
qui
viennent dans le Marais, ils viennent souvent du RER, et ils repartent chez eux après, et ils repartent en dehors des strass et des paillettes de Paris, et puis il faut retourner dans ce monde ghettoisé, c'est le mot.
Shirley Soignon avec nous, et pour nos oreilles, Djoubaka est là.
C'est moi.
Salut Djoub.
Ça va? Ouais. Alors vous savez, il faut qu'on ait des matins où le diable sort de sa boîte à ressorts, genre un petit diablotin, un genre de lutin qui fait du bien. Quelqu'un qui va brouiller les pistes, qui vous dit tiens, on part à la mer, et puis finalement vous vous retrouvez dans une montagne, et le gars, il a un naturel qui vous laisse comme deux ronds de flanc. Moi j'aime bien cette idée, en fait, ou chemin que je vais prendre, ou qui m'emmène finalement, aller dans une autre direction. Et j'aime aussi, en fait, que les disques me fassent ce petit effet. Alors, mon lutin du jour, il s'appelle Gus Englehorn. Elle a une voix nasillarde assez étrange, et on imagine ou on entend, ça dépend de son acuité. Une sorte de petit rire permanent derrière ses intonations. C'est-à-dire que soit il te fout la trouille, soit tu te dis que ce Gus, il est tellement la vie, que ça déborde. Alors, faut vous dire quand même qu'au départ, il n'était pas forcément destiné comme ça à s'enfermer dans un studio pour faire de la musique. D'abord, il est né dans un pays sauvage, un bled de bled, ni Neil Chic que ça s'appelle. J'ai vérifié, c'est en Alaska, et on se marche pas dessus, hein. Il y a 800 habitants. Ses parents, ils pêchent le saumon et les enfants de la famille, il a des frangins, ils sortent passer le temps, se prenaient pour des sorciers. Là, je me dis, ça commence bien comme histoire, comme famille. Et puis, alors, et puis tout ce beau monde décide de partir à Hawaï, mais ils vont pas se mettre sur la côte, dans le genre touriste, non. Ils vont dans un coin hyper isolé, en bas d'un volcan, coulé de lave, la baraque et tout quoi. Alors, si tu veux désintoxiquer tes mômes du portable, tu vas là-bas, il y a pas d'onde et t'es coupé du monde. Et ben, il y en a un à qui ça a ouvert l'esprit. Et ben, c'est Gus. Parce que Gus Eglehorn, il a un nom trop compliqué, va devenir snowboarder. Alors, on commence, je sais pas, j'ai pas trouvé. Ouais. Mais de haute voltige, hein, tournée mondiale et compagnie. Et il y a une logique dans tout ça, mais on la voit pas maintenant. Vous allez voir. Parce que ça, après certains témoins, il descendait les pistes habillé comme un David Bowie façon Ziggy Stardust, quoi. Et dès qu'il avait un moment, ben, il écrivait des chansons. Alors, 28 ans, la retraite, le rêve, quoi. Le corps ne suit plus et le voilà qui passe à la musique. Il raconte quand même qu'il a mis 13 ans à réfléchir sur son premier album. Bon, mais c'est pas celui-ci qui nous intéresse, c'est celui, le deuxième, qui s'appelle Dungeon Master, un truc SM a priori, qui a mis 6 mois à voir le jour. Alors, le mode de fabrique, hein. Donc, Gus a une alter ego, qui s'appelle Este Preda. Ils se sont enfermés dans une cabane au fond des bois. Isolement total. Aucune tentation, des bornes à la ronde. On sait que cette contrainte choisie, parce que c'est pas le premier à faire ça quand même, permet d'aller à l'essentiel quand on est créatif, de ne subir aucune influence extérieure, à part celle de la forêt et des élans qui viennent te voir le matin. Et en général, il en ressort un disque, tout ce qu'il y a de personnel. Et ben, je vais vous dire, il est rare de rencontrer maintenant une œuvre musicale qui impose en fait une nouvelle esthétique. Il y a sa voix d'abord, tellement en dehors des modes. Dans une même chanson, il se transforme, il joue comme un comédien le ferait, en fait. Il enchaîne des cris rythmiques, il parle, il chante, c'est comme s'il était à bout de souffle. Ah, putain, il n'en peut plus. Et puis, oups! Le voilà qui pousse de la voix avec une justesse qui nous ramène sur terre. C'est un peu comme pour ses mélodies, ses arrangements. La première fois, vous dites, tiens, d'avant, bon morceau de folk. Et puis, en fait, quand c'est fini, ça se passe pas du tout comme ça. On passe d'un rock parfois presque tribal, grâce au jeu de Madame Preda, à une sorte de sournoiserie pop qui tire dans les coins. Il y a une bonne idée toutes les 10 secondes, c'est pas donné à tout le monde, et c'est un naufragé bien tempéré. Allez, on écoute Exercise Your Demon.
I want you to hit me.
Ah bah, yeah. You know. Qu'on frappe.
Yeah. Yeah. No, exercise my demons.
Bon, on a bien exercé ses démons, là. Donc, il s'appelle Gus Anglerhorn. Son album s'appelle Dungeon Master. C'est chez Secret City Records. Et je crois qu'il passe à Paris dans carrément pas longtemps. Ou même, peut-être même en France. Faut surveiller les internets. C'est le 16 à Paris.
C'est validé, on aime beaucoup.
Allez.
Merci, Djoubaka. Shirley Soignon est en notre compagnie. Son spectacle s'intitule Être humain. Elle joue au théâtre de l'Atelier, c'est à Paris, le samedi 12 juin à 19h. Quand vous expliquez que vous êtes non-binaire, le refus de la case fille-garçon, etc., voir le monde de cette manière-là, donc c'est raconter le monde autrement, de façon non-binaire, est-ce que pour une humoriste, ça amène aussi de la, pas mal de drôlerie, en fait?
Vous voulez dire que c'est cool pour moi de...
je sais pas, ouais, est-ce que c'est un prisme...
J'ai d'autres petits problèmes qui me sont arrivés, dont je me sers pas mal sur scène. Évidemment, c'est...
Parce que c'est voir le monde de façon différente, sans doute plus proche de la réalité, même.
Ah ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas, en tout cas, évidemment, je pense je vais faire une réponse un peu bateau, je suis désolée, mais je crois qu'on est un peu tous différents. Et que, du coup, bon, on voit tous un peu le monde différemment par rapport à notre expérience de vie, et évidemment que mon expérience est un peu hors norme par rapport à la norme sociale qu'on pourrait avoir tous en tête. C'est vrai que, du coup, je vois des choses à côté un peu.
Ouais, mais vous voyez des choses que les autres ne voient pas, peut-être.
Ouais, mais comme je suis un peu toute seule, des fois, je me demande si c'est moi qui suis ouf ou pas. Je suis là, c'est moi ou c'est vous?
C'est ça qui fait l'originalité de la chose, du spectacle.
Totalement.
Guillaume Meurice voit le monde d'une certaine manière, lui aussi.
Oui, c'est le jubilé de la reine.
Ah, voilà, c'est le jubilé.
Oh, vous saviez ou pas? C'est jubilé de platine de la reine d'Angleterre qui commence aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu les Jeux Olympiques pour le magazine Gala. Par exemple, là, ils ont pris des pigistes, ils sont à Donf. J'ai envie de vous parler du jubilé de la reine parce qu'en ce moment, on a une petite brouille diplomatique avec les Anglais. Je ne sais pas si vous avez suivi, Darmanin, c'est carrément une insulte là-bas maintenant. Alors que chez nous, c'est plus une catégorie YouPorn, dans laquelle le ministre de l'Intérieur interprète Stéphane Plaza. Alors, il y a Macron qui a essayé de rattraper le coup ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, en faisant un message à la reine d'Angleterre, en rappelant le moment où elle a rencontré René Coty. Ce qui est toujours une manière assez élégante de rappeler l'âge de quelqu'un. Hein, Juliette, d'ailleurs, vous étiez excellente dans les Buster Keaton. Et c'est vrai que la reine d'Angleterre, on va pas dire son âge, mais elle a connu Jean-Yves Le Drian quand il avait seulement 65 ans. Voilà, c'est pas une raison pour être désagréable avec elle, mais bon, elle est un petit peu âgée. Alors, je vais essayer de rattraper le coup. Je suis allé voir Alex Taylor, qui est un journaliste franco-britannique, bien connu des auditeurs de France Inter, parce qu'il faisait la revue de presse internationale dans le 5-7. Hein, Charline, ça vous rappelle des souvenirs?
C'était
à l'époque, c'était des postes à Galen à l'époque. Mais je ne vais pas rappeler votre âge, non plus. Ouais. Alors, déjà, commençons par les bases. Qu'est-ce que le jubilé de platine?
Jubilé, c'est quand on fête, et le platinum, c'est les 70. Donc, en fait, le fait qu'elle soit là pendant 70 ans.
Ça fait 70 ans qu'elle règne, d'accord.
On n'est pas très au courant.
Non, mais là, je suis vraiment nul sur le dossier.
Non, mais il faut regarder aucun journal, on parle que de ça.
Alors, attendez, parce que moi, je ne suis pas venu pour me faire engueuler non plus. Hein, je suis là pour faire un petit peu de pédagogie. Moi, je suis venu pour informer la France de cet événement majeur pour la monarchie anglaise et pour les Montescaliers Stana. Et il faut dire qu'Alex Taylor, il en a un petit peu marre de parler de la reine d'Angleterre.
J'ai passé, moi, 30 ans à faire des émissions sur l'Europe. Personne ne m'appelle. J'ai habité 15 ans à Berlin. Personne ne m'appelle. Pas un seul coup de fil. Tout le monde s'en fout. Là, la reine est là aujourd'hui, 50 coups de fil. S'il faut savoir, en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est quand on n'est pas payé pour faire ça. Nous, je le fais gratuitement parce que vous êtes sympathique. Mais je vais vous conclure au repas parce qu'eux, ils ont la gentillesse de m'inviter à Roland-Garros.
Ah oui, désolé. Nous aussi, veut la gare Montparnasse. Hein, c'est quand même un autre délire. On n'a pas le prestige de repas, mais on a des auditeurs. Oh, je dirais que ça compense finalement. D'ailleurs, je serais bien allé à Roland-Garros cette année, mais j'ai eu peur des hooligans. Il y a des hooligans suisses qui sont venus avec 40 000 faux billets. Bon, bref, ça me terrifie. Parlons de la reine.
J'ai animé des trucs avec elle. Hein.
Carrément.
J'ai animé une cérémonie où elle a inauguré les travaux pour l'A380 à Toulouse.
Ah, ok.
Et moi, mon rôle, 2 jours de répétition, on m'a donné des fiches pour que je dise « Ladies and gentlemen, the Queen ». C'est tout ce que j'ai dit.
Ouais, 2 jours de répète, ça c'est pas mal. C'est un petit peu l'inverse du sketch de début d'émission qu'on a. Alors, nous, c'est 0 répète, mais pour un résultat époustouflant. Ah bah oui. Notamment grâce à François Audouin, notre réalisateur, qu'on appelle le Steven Spielberg d'Angoulême. Allez, continuons avec la reine et ça rentre chez Airbus, donc vous l'avez entendu, avec Alex Taylor.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est restée quand même 2 heures après pour papoter avec les gens.
Peut-être qu'elle a un peu de temps libre aussi, non?
Non, mais ça doit la gonfler. Mais en même temps, je ne sais pas si la gonfle tant que ça, parce qu'en fait, elle reste dans sa prison, c'est horrible.
Donc, on ne se rend pas compte.
Elle peut sortir, faire ses courses, faire des trucs qui sont normaux pour nous. Donc,
on peut la plaindre un peu, cette reine, alors.
Non, la plainte, j'en sais rien, mais c'est quand même une prison dorée.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'en parlais hier avec un gamin d'un bidonville de Calcutta qui me disait, je vois cette pauvre reine, tu vois, rien que d'en parler,
Pardon. Ça me fait l'effet de Valérie Pécresse. À chaque fois que je pense à ces deux femmes. Ça... Bon, je suis professionnel, je vais continuer. En tout cas, l'Angleterre, c'est vraiment une passion outre-Manche.
Il y a maintenant des tarés en Angleterre qui ont tricoté tout à fait la famille royale life-size, hein, taille réelle.
Ah, taille réelle, oui.
Il y a un village où il y a maintenant toute la famille royale tricotée. Il y a même des gâteaux life-size aussi.
Il y a des gâteaux taille réelle de la reine d'Angleterre. Voilà. Bah, heureusement que ce n'est pas Teddy Riner, hein, parce que ça ferait un petit peu de matière. Donc voilà, il y a des gâteaux reine. On connaissait la pizza reine, hein, qui a un point commun avec Emmerich. Les champignons, bien sûr. Mais là, c'est carrément des gâteaux. Et l'émulation incroyable qu'il y a dans tout le Royaume-Uni. Hein.
Déjà, les villages sont férocement en compétition pour savoir quel village aura la table la plus longue avec tous les habitants du village pour faire un pique-nique.
Ah, il y a une compétition de pique-nique.
Complètement, oui. Mais
par contre, la bouffe anglaise, ça n'a pas changé. Ça, c'est...
Oh, mais vous nous gonflez avec ça.
Pardon, merde, putain, j'étais presque à la réconciliation. J'ai foiré sur la gastronomie. Excusez-moi. D'ailleurs, John Lennon disait que le rock français, c'est comme le vin anglais. Hein, donc, c'est quand même pas moi qui ai inventé le truc. Et je pense même qu'on pourra jamais se réconcilier avec les Anglais. Eux, ils adorent une tête couronnée au sommet de l'État qui décide de rien. Nous, on déteste une tête pas couronnée au sommet de l'État qui décide absolument de tout.
Merci, Guillaume Meurice.
Vous en savez plus sur le jubilé ou pas?
Merci,
vous
Alex Taylor.
J'ai l'impression que...
C'est super.
C'est quand même des gens qui font des pique-niques sur des tables. Hein.
Oui, voilà. Ouais. Donc on est à haut niveau de
Il y a un problème.
Ouais. Ou qui n'ont pas compris le principe du pique-nique.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un appel aux dons pour le 4 juin, là, la Pride des banlieues. Pardon.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, il y a un appel aux dons. Vous pouvez aller sur la Pride des banlieues sur le site et signer la pétition et puis donner pour que l'organisation puisse se faire.
Ah bah voilà. Ouais, très bien. Le message est passé sur les soignants. Alors, l'humour est un produit d'appel pour remplir les salles de spectacle, d'après Le Monde. Le rire est lucratif pour les théâtres, il attire un public presque aussi large et nombreux que les concerts de variété, paraît-il. Et ce, dans tous les coins de France. Ce où il faut se farcir parfois les autorités locales au premier rang, vous connaissez ça.
S'il vous plaît, j'ai monsieur le maire là, qui voudrait vous saluer. Donc voilà, le Jamel Comedy Club.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Ah, monsieur Njijol, alors là.
Je vais vous dire, si, attendez, mes enfants vous adorent, c'est...
Non, moi c'est Noom. Thomas Njijol, c'est lui là.
Pardon. Bonjour. Alors, c'est marrant qu'on se croise aujourd'hui, parce que alors, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai dîné avec Ramayad.
C'est chez vous.
Mes enfants?
Non, je veux dire, vous êtes du Sénégal, vous aussi.
Non, je suis désolé, moi, mes parents sont du Cameroun, en fait.
Les lions indomptables. Bon, écoutez, je vous laisse. On se retrouve pour la petite photo du journal, hein, à côté. Hein, à tout de suite.
Ah, monsieur le maire, je vous les Cameroun.
C'est un extrait du Inside Jamel Comedy Club. C'est une scène qui vous rappelle quelque chose, Shirley, Emmerich, Guillaume?
Ah bah particulièrement moi plus, je pense. J'ai l'impression. Hein,
que... Non, mais sur le côté autorité locale qui est à côté de la
J'ai
plaque, en général. Ouais.
J'ai bien compris. En tout cas, la série Inside est très drôle, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est absolument hilarant. Et ça est déjà arrivé, évidemment, d'avoir des mères qui... Moi, j'ai été beaucoup invité à dîner, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, d'être invité à dîner alors que vous n'étiez pas au courant, on pensait que c'était un resto, et on dit non, c'est chez le maire, directement avec sa femme. Et vraiment, puis le spectacle n'était pas ouf en plus. Il y a une ambiance à table dont on est couvert et tout.
Eh oui,
ça m'est déjà arrivé.
Alors, vous avez monté votre comédie club, le Barbès Comédie Club, et vous expliquez la bière rapporte plus que les vannes.
Ouais, ça fait mal. Hein. On a vu ça avec ma comptable, j'ai arrêté de faire des blagues.
Donc, c'est votre côté entrepreneur, entrepreneuse. D'où est venue cette envie de créer votre propre comédie club à Barbès?
Ouais, vous l'avez dit, créer. En fait, je pense que plus qu'entrepreneur, je suis créative, j'aime bien créer des trucs et du coup pour aller au bout de mon idée artistique qui était de faire du stand-up, donc d'avoir un lieu dans lequel s'entraîner tous les soirs, c'était compliqué, il n'y en avait pas vraiment, en tout cas il y en avait un seul et ça commençait à être un petit peu serré pour tout le nombre d'humoristes qu'il y avait à Paris, donc je dis bah faudrait peut-être en réouvrir un autre, faut le faire du coup parce que personne ne voulait vraiment s'y lancer et en fait j'avais la flemme d'attendre parce que j'aime trop mon métier, donc j'ai fait une scène pour jouer dessus.
Tellement que vous voulez partager aussi,
il y a aussi une envie de partager évidemment, je vais pas faire tout. Non, c'est mon comédie club, personne ne joue.
Comment est-ce qu'on forme au stand-up alors, les jeunes?
Bon, on fait semblant de savoir et puis on dit des trucs. Non, mais en fait, j'ai réuni autour de moi des personnes que je trouvais super cool et avec qui j'aurais aimé apprendre plein de choses différentes, dont une anthropologue, un journaliste, une prof de théâtre. Voilà, il y a plein de gens comme ça avec qui j'aime bosser personnellement et je me suis dit, je vais partager ces liens que j'ai, ce réseau, avec des jeunes qui veulent apprendre à faire de l'humour parce que je me dis, c'est cool de pouvoir pouvoir commencer avec les bonnes bases qui consistent à être déjà dans un groupe bienveillant. C'est pas arriver dans un endroit de la capitale où ça va être compliqué, les gens te regardent mal, tu bides, personne te calcule. Là, je voulais créer un groupe bienveillant qui puisse se soutenir pendant le reste de leur vie, ou en tout cas le maximum qu'ils puissent. Et surtout qu'ils apprennent des choses. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à penser que humoriste, c'est pas un travail. Et parce que des fois, on travaille pas. c'est une réalité aussi. Et ça serait bien de bosser un peu, d'aller un peu chercher, de fouiller dans les sujets, aller voir si tes sources sont vraiment bonnes. Si...
C'est là où c'est proche du journalisme, vous dites.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a des cours de journalisme, il y a des cours de chronique, ils ont adoré faire des chroniques. On se rend compte que c'est pas le même exercice, mais qu'on va chercher les mêmes choses. L'information, avoir un point de vue sur un sujet, essayer de tenir son angle, de tirer ce fil.
Écoutez bien ça, Émeric Lamprey.
Oui, j'ai écouté ces chroniques, c'est n'importe quoi. Il faut que tu viennes au campus.
Shirley Soignon, vous m'offrez une transition.
Mais oui, j'attendais la transition.
Génial, ces chroniques.
Émeric Lamprey.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais.
Mais j'ai rien entendu. Bon, l'année prochaine, je vais changer de gimmick. J'hésite entre deux. Là, c'est bonjour à tous, vous allez mal? J'ai rien entendu. Ça, c'est si Macron il gagne aux législatives. Et bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Mais c'est le même. Alors, j'avais aussi Vizorek, qu'il a perdu aux Molières. Ah ah ah, cher. Mais bon, ça marche qu'une fois.
Vous revenez l'année prochaine, alors?
Ah bon? Bon, allez, c'est la chronique. Sourcée, non, mais je fais la chronique, là. Allez, quoi, cool. Bon. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui vont à la bol cet été. J'y vais aussi. Et je n'aurai pas mon summer body. Voilà. Je vais rester gros. Voilà, je reste, m'en fous. Je sais, je suis gros. Hein. Ça va, c'est bon. J'ai pas l'air de me voiler la face. C'est, la semaine dernière, j'avais trop chaud. Je suis allé me baigner à l'embouchure de la Seine. Il y a un bateau de Greenpeace qui est arrivé pour m'aider. Je te jure, il était là. Oh non, il a des champignons partout sur le ventre. Il doit être malade, il faut l'euthanasier. Moi j'étais là. Mais arrêtez, je suis pas un orque. Je suis Émeric Lamprey. Mon Dieu, il parle. Oui, je suis un chroniqueur à la radio. Waouh, il fait de la radio. Mais sur quelle radio? France Inter. Ok, en euthanasie. Bon. Non, mais à la base, je voulais commencer mon régime au 1er juin, juste après la fête de la raclette à Annecy. Vous connaissez la fête de la raclette à Annecy, 1er juin? C'est pour fêter la fin de la saison de la raclette et le début de la saison du jambon à l'os. C'est super, on met des foulards jaunes, on lâche un taureau dans la rue et on court en criant c'est vraiment une idée à la con. Après, il y a deux jours, j'ai perdu mon foulard, j'ai pris une bande d'érias dans l'épaule, ils ont cru que j'étais le taureau. Après, il y a L214 qui sont arrivés, ils ont dit il souffre, faut l'euthanasier. Je dis mais arrêtez, je suis pas un taureau, j'aimerais que l'on prenne. Mais il parle. Oui, je suis un chroniqueur à la radio. Mais quelle radio? Europe 1. Ok, on le laisse vider de son sang. Bon, après moi j'étais là. Bon allez, la chronique là. Bon. Non mais donc pas de summer body parce que je vais faire des réserves. Là je vais manger. C'est simple, j'arrête de manger dès que j'ai le profil pour présenter la matinale de France Inter. C'est mais j'ai lu un article sur la famine chez mon gynéco et oh la boulette. Ouais, je vais chez le gynéco. Non mais j'y vais pour draguer, c'est plus facile. Ça fait un sujet de conversation. Alors comme ça. Toi aussi, ça brûle quand tu fais pipi. Après, on enchaîne des conversations. Ou pas. Hein, ça peut s'arrêter là. Donc, il faut des formations pour les chroniques. Alors, donc, je lisais un article qui disait qu'il y avait une grosse pénurie de bouffe la fin d'année. Il y a plus de blé, plus de sucre, plus de poulet, plus de riz. La poisse. Hein, tout ce que je préfère. Quoi. C'est vraiment. Tu sais, encore, s'il y avait une pénurie de brocoli, de fenouil ou de Pascal Pro, on s'en foutrait. Mais là, ça commence à faire chier. Et à ceci, plusieurs raisons. La guerre en Ukraine, l'inflation alimentaire. Et le réchauffement climatique. Alors bien sûr, ça va commencer par les grands classiques, Éthiopie, Nigeria, Soudan, Yémen, et puis ça va s'étendre. Voilà, le secrétaire général de l'ONU parle d'un ouragan de famine pour 2023. 2023, c'est bientôt, hein. J'ai compté, c'est dans 7 mois. Tu vois que je bosse mes chroniques. Non mais un ouragan de famine, un ouragan. Déjà quand t'as faim c'est chiant, mais en plus quand il y a du vent c'est insupportable. T'es là, j'ai mis la tranche de jambon sur la table. Mais non mais elle s'envole. Miam miam, le bon jambon. Ça c'était la voix de l'oiseau qui l'emportait. Non, j'ai rigolé, j'ai pas vraiment bossé la chronique. Alors je sais, vous êtes en train de vous dire, mais Émeric, ta dernière chronique était déjà sur le réchauffement climatique. Oui c'est vrai, mais j'ai décidé que j'allais faire que des chroniques que sur ça. Je vais parler écologie. Je laisse les sujets nul au chroniqueur nul, c'est Stade de France, Burkini, Balkany, hop, Guillaume, Walid, Jamil, terminado. Vous allez plus en pouvoir, vous êtes là, mais arrête de parler de l'écologie, arrête, à la limite, fais des micro-trottoirs, mais arrête. Mais je n'arrêterai jamais, tant qu'il n'y aura pas à nouveau des insectes écrasés sur mon pare-brise, je continuerai à faire des chroniques sur l'écologie. Et puis ça risque de durer, parce que j'ai toujours pas récupéré mon permis de conduire. Merci de m'avoir écouté.
Émeric Lamprey, merci Émeric. Sur les qui dit une blague, ça peut vite devenir une info. faux. Ouais. Bon, dans la bouche du brick Lomprey, on est à l'abri, non?
Si, la famine.
Il y a l'ouragan,
Ouais, ouais, bien sûr.
Il y a quand même pas mal d'infos.
Ouais, ouais, ouais. Carrément, bah, il a bossé. Et brick Lomprey, j'ai dit bosser Lomprey dans la même phrase. Shirley Soignon, c'est autre thème. En Angleterre, des lycéennes interpellent leur gouvernement car leur uniforme étant copié et vendu dans les sex shops. Ces établissements contribuent à la sexualisation de leur habillement obligatoire. Et les jeunes filles se font régulièrement harceler dans la rue. Elles réclament que leur uniforme ne soit plus vendu, donc, dans les sex shops.
Elles étaient si mignonnes dans leur petit uniforme. Ne cherchez pas à les retrouver. Pas un mot à personne, ou vous ne leur verrez jamais. Le cerveau. Le cerveau.
Le gendarme et le gendarmette, bien sûr, grand classique, évidemment. C'est un article sur Slate, soufflé par Juliette, pour que vous êtes mort de rire, Juliette.
Le son de Galabruos.
D'accord, ok. Très bien. Est-ce que ça vous paraît évident, le lien entre harcèlement de rue et l'uniforme des jeunes lycéennes qui est vendu dans les sex shops?
Bah, disons que c'est vrai. En fait, quand j'ai vu l'article, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé plus tôt, putain. C'est vrai qu'on chauffe un peu les gens, quoi.
Ouais.
Leur vendre les uniformes. Non, mais effectivement, je pense que c'est une demande légitime, oui. Ça serait pas mal, peut-être que ça soit. Mais après, je pense qu'il y avait un truc, je me disais aussi, après c'est à chaud la réflexion.
Ouais.
Mais c'est quand même mieux qu'on puisse acheter un uniforme pour s'amuser chez soi qu'aller chercher vraiment l'écolière, quoi. C'est ça que je me dis aussi.
Donc, ouais. Oui, mais l'un n'empêche peut-être pas l'autre.
Oui, bah, apparemment si, parce que les gens veulent acheter des tenues d'écolière, donc il y a un délire avec ça. Donc ça, bon, qu'ils le gardent. Ah, si c'est une adulte qui le met.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué du coup l'idée de. Tu vois, de. C'est normal évidemment que la demande soit faite.
C'est
un peu chiant que la même tenue soit à l'école. Et... Moi je pense qu'il faut surtout arrêter les tenues d'écolière.
Oui,
je crois qu'il faudrait que tout le monde s'habille comme il veut, quoi.
Oui, des tenues d'écolière en Angleterre ou mais ailleurs dans le monde qui sont très genrées.
Des tenues, voilà, exactement.
Non, mais c'est très genré.
Totalement. Totalement. Voilà, je pense qu'il faudrait arrêter ce principe de base.
Est-ce que vous avez un uniforme pour la scène?
Chez moi, vous voulez dire?
Non, je veux dire.
Bon, d'accord, je le rends, ma tenue d'écolière.
Je veux dire, les humoristes ont généralement une forme de je sais pas, d'habitude d'habillement, quoi, presque d'uniforme, ouais.
Oui, en ce moment, j'ai une tenue que j'aime bien, oui, mais je vais la changer bientôt, parce que j'aime pas les habitudes.
Mmh.
Et le seul truc que je garde, et que c'est un peu inquiétant, c'est mon whisky sur scène, ça je...
C'est vrai.
Mais la tenue, je change, des fois je viens nude. Non, mais ouais, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai une tenue que j'aime bien en ce moment. Mais je sais que je vais la changer dans 2-3 mois.
Ok,
quoi.
On peut pas appeler ça un uniforme.
Non,
on peut pas appeler ça un costume.
En fait, c'est du stand-up, donc ouais. je me change pas avant de monter sur scène. Je crée pas le costume de scène.
Mm. Ah ouais?
Non, surtout pas.
Vous venez comme vous êtes.
Non, ouais. C'est-à-dire que je sors de chez moi en général, quand
j'ai
un spectacle.
De la rue à la scène?
De la rue à la. Bah, il y a chez moi déjà.
Oui,
je prends
non,
la petite douche
bien.
Et je m'habille et tout. Mais en fait, je vais pas avoir de changement de costume. C'est-à-dire que si je suis habillée comme ça et que je vais au spectacle, je vais pas avoir de changement de costume. C'est pas. Ça va me mettre dans un autre délire qui est d'interpréter quelque chose et de faire du théâtre. Et que je fais pas du théâtre, je fais du stand-up. Donc je suis la même personne là maintenant au micro que ce que vous allez voir sur scène. Donc des fois, c'est marrant. Des fois, on réfléchit. Des fois, il y a des silences.
Voilà. Okay. Et des fois, il y a des réponses questionnaire de par Jupi Proust, préparé par Juliette.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, du nom de famille qui devait être difficile à porter au collège, vous par rapport au fromage Soignon, 10 étant Bigard, rapport au steak, 0 étant Martin, rapport au fait que tout le monde s'appelle Martin, vous vous situez vous à combien?
Sur l'échelle?
Ouais.
Qui est sur 10, hein?
Ouais, et tout en haut c'est Bigard, les steaks, Bigard c'est cher.
Ouais, c'est en haut.
C'est vraiment très cher.
Non, franchement 5.
Pas plus que ça.
Franchement, 5, ça va.
Collège facile.
Ouais.
Vous préférez expliquer le terme de non-binaire à Pascal Pro ou le fonctionnement du 49.3 à Lucky, votre chien?
Franchement, 49.3 à mon chien, hein, c'est sûr. Hein. Je suis déjà énervé de l'expliquer à Pascal quelque chose. Quoi que ce soit.
Au bar de votre comedy club, de votre Barbès comedy club, il y a un cocktail. J'ai vu ça sur la carte à votre nom. Alors, c'est quoi la suite? Une fleur, une rue, un aéroport?
Écoutez, c'est le bar qui a voulu faire des cocktails au nom des artistes et je ne bois pas ce cocktail, il est trop fort pour moi.
Oui, parce que j'ai regardé la composition, effectivement, il est costaud.
Whisky CBD,
Il y a du
Mais
Grand Paris.
Les gens adorent.
C'est du Soignon.
Quel autre Shirley vous pourriez choisir comme marraine? Celle de Shirley Dino, Shirley Temple ou Shirley MacLaine, la plus badass des actrices américaines?
Shirley MacLaine, ouais.
Ouais, ça me semble
clairement,
évident.
Ouais.
On a enfin vu dans une série américaine une première fois d'une super héroïne noire et lesbienne. Elle s'appelle Thunder et elle a un super pouvoir. Si vous pouviez être une super héroïne, quel serait votre super pouvoir à vous?
Mon super pouvoir? Oh waouh.
Elle, par exemple, elle résiste aux balles.
Ouais, ok, je connaissais pas le pitch. Elle résiste aux balles.
Ouais.
Je résisterai aux homophobes. Un peu mieux que maintenant, parce que des fois je tape dans des sacs quand même.
Alors on l'a vu dans le spectacle, enfin la première partie du spectacle de Caroline Vigneault à l'Olympia. À part sur la scène de l'Olympia, justement, un sort de première, quel est le meilleur endroit pour avoir ses règles inopinément?
Il y en a vraiment pas. C'est toujours une mauvaise nouvelle. Bon, moi, vraiment, tous les mois, je suis là, ah, c'est recommence, putain.
Vous inquiétez pas, ça dure pas toute la vie.
Merci, Juliette. Shirley Soignon, on peut vous voir dans Être humain au Théâtre de l'Atelier à Paris le samedi 12 juin à 19h et puis plus tard quand vous direz d'autres dates, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à tous, les amis. Demain, ce sera vendredi. Et on n'est plus habitués aux semaines de 5 jours.
La semaine des 40 heures, les congés payés, nous aurions bien besoin d'un franco.
Tout de même, c'est bien toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers.